cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 13 mai 1994.
Petite question, pas directement dans le cours, mais pratique. Quelle est la place des grands-parents dans la famille? Alors, on va faire la philosophie des grands-parents.
Ça.
ça. Et c'est pas une fuite, c'est normal. Dans le mode de gouvernement de l'Église. Mais un abbé, son conseil est beaucoup moins conseil que dans les ordres où il n'y a plus de, y a pas d'abbé. Parce que l'abbé, c'est un peu le gouvernement beaucoup plus de l'unité. Tandis qu'un prieur, c'est le gouvernement plus de l'ensemble de la communauté. Il y a des modalités différentes, vous voyez. Un prieur qui prendrait l'autorité d'un abbé est un mauvais prieur. Parce qu'il doit comprendre que le prieur, c'est l'autorité pendant quelques années. C'est pas une autorité à vie. L'abbé, c'est l'autorité à vie. Donc il peut avoir une prudence beaucoup plus longue. L'autorité du prieur, c'est une autorité momentanée qui s'inscrit dans une tradition, qui s'inscrit dans un prieur précédent et qui prépare un prieur à venir. Un prieur qui serait révolutionnaire. Ils verront que du temps de mon priorat, voilà, c'est mes idées qui s'imposent. C'est très mauvais. C'est pas du tout l'esprit du prieur. L'esprit d'un prieur, c'est d'entrer dans les traditions, d'entrer dans l'esprit de la règle, pour respecter l'esprit de la règle, mais pas tellement innover de temps en temps, pouvoir dire peut-être qu'il serait bon d'aller dans ce sens-là. Mais c'est très curieux ces choses-là. Mais on voit par exemple, petit détail, j'ai des dominicains, au chapitre général, on peut voter des choses nouvelles avant que ces choses nouvelles deviennent une loi. Il faut que ce soit confirmé pendant deux autres chapitres. Mais ça montre bien l'esprit. C'est que même le chapitre général ne peut pas être révolutionnaire. Il s'inscrit dans une tradition. Tandis qu'un abbé peut agir beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus catégorique. Alors, Et cette éthique familiale ne peut pas être complète sans l'éthique politique et sans l'éthique personnelle. Donc l'éthique familiale, ce qui nous intéresse, puisque c'est l'année de la famille, et je vous ai dit, il faut que vous ayez au moins un chantier sur l'éthique familiale, sur la philosophie familiale. Il faut avoir un chantier là-dessus. Et alors, ce chantier se fonde sur l'éthique personnelle et il implique l'éthique politique. Alors, quel est le lien le plus direct entre l'éthique familiale, l'éthique politique et l'éthique personnelle? et non pas des valeurs humaines purement. Or, comme de fait, on veut être en dehors du point de vue confessionnel, et que la famille, la philosophie de la famille, est liée à toutes les traditions chrétiennes, on bloque les deux. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, l'aspect religieux est chrétien. On ne comprend pas du tout l'aspect religieux qui soit purement religieux. Peut-être que l'islam va obliger les chrétiens de reprendre une philosophie religieuse et une éthique religieuse. Oui. Parce que pour pouvoir comprendre ce qu'est la philosophie de l'islam, il faut l'attitude religieuse. C'est pas la très sainte Trinité qui va nous faire comprendre ce que c'est que l'islam. Ça va nous faire comprendre les oppositions de l'islam par rapport au christianisme, mais pas ce que c'est que l'islam. C'est l'attitude religieuse. C'est comme l'attitude religieuse qui fait comprendre la loi divine donnée à Moïse. S'il n'y a pas une philosophie religieuse, une éthique religieuse, on comprendra très difficilement. Oui. On projetera sur Moïse notre foi chrétienne. La foi de Moïse est une foi virtuellement chrétienne, mais pas explicitement chrétienne. De sorte que c'est la foi dans le Créateur, explicitement. C'est pour ça qu'on est à un moment, au point de vue historique, où le chrétien doit, s'il est philosophe, doit faire une théologie de la famille et une philosophie de la famille. Je crois que c'est nécessaire, c'est un appel du Saint-Père. Philosophie éthique de la famille. Donc dans la philosophie éthique de la famille, je vois les points de contact avec une éthique proprement humaine, l'amour d'amitié. Or, l'amour d'amitié implique une éthique humaine. Je dois étudier ce qu'est l'amitié au plan philosophique pour comprendre la structure fondamentale de la famille. Et ensuite, c'est le point de vue de l'éducation. Et encore plus, vous voyez, parce que dans l'amour d'amitié et dans le choix de l'époux et de l'épouse, l'État n'intervient pas, normalement, si ce n'est accidentellement. Parce que ça peut être des employés d'État qui se rencontrent et qui se marient. Une fois, j'ai rencontré un foyer, c'était en France, un foyer, c'était deux, du côté de la femme, du côté de l'homme, tous les deux, des chercheurs de clés. Il doit avoir un nom particulier, en mettant un logos au terme. Je renie au milieu des clés. La reine des clés. Alors, l'éducation fait que l'État intervient d'une façon plus directe. L'État n'a rien à dire au point de vue du choix. Mais au point de vue de l'éducation, l'État peut avoir quelque chose à dire. L'État doit respecter la liberté des parents pour le choix confessionnel. Il faudrait que l'État respecte ça, mais entièrement. Parce que ce n'est pas l'État qui a un rôle premier pour l'éducation. Ce n'est pas l'État, c'est la famille. Donc c'est la famille qui choisit et qui spécifie. C'est la différence. Vous voyez, dans un État socialiste parfait, c'est l'État qui prend ce droit de l'éducation. Comme dans le communisme, qui est le socialisme absolu. C'est l'État qui prend ce droit. Mais l'État usurpe à la famille un droit qui est propre à la famille. Et nous vivons un peu dans ce climat. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on sait. Alors c'est très intéressant parce qu'on assiste à quelque chose d'assez monstrueux et qui commence à l'être. On sait que la communauté politique, donc dans la politique, l'aspect communautaire le plus fort, le plus imposant, c'est le point de vue de l'éducation. Et qui devient tellement grand, tellement que, au fond, ça devient un petit état dans l'état. C'est très très curieux. Parce que c'est un monstre. C'est un cancer, si vous voulez, dans l'état. Et dans la famille. Parce qu'on a, il y a un déraillement. C'est la famille qui est responsable de l'éducation. Le jour où vous ne voulez plus que ce soit la famille qui est responsable et que c'est l'État qui le prend, il y a quelque chose de faux. Et alors, il y a une espèce de vengeance, je dirais, qui fait que tout l'aspect éducatif se rassemble en prenant l'éducation depuis le début jusqu'à la fin avec l'université et qui fait que on ne sait plus où on va. Les universitaires aujourd'hui le disent, ils ne savent plus où ils vont et ils pensent que c'est la fin de ce point de vue de l'université. Il faut à tout prix trouver quelque chose parce que actuellement ça ne signifie plus rien. Parce que le choix des professeurs n'est plus du tout le point de vue de la compétence. C'est un point de vue politique. C'est un point de vue, vous voyez, qui intervient de façon telle que c'est la destruction de la finale. Il n'y a plus de finalité. On ne sait plus où on va. On assiste à ça. On assiste à pas mal de fins aujourd'hui. Et il faut être attentif à ça. Parce que c'est un monstre. C'est monstrueux. C'est une maladie. Alors, il faut comprendre comment c'est l'éducation qui est le lieu de conflit et de rivalité, qui devrait être un lieu de coopération, mais qui très vite devient un lieu de conflit et de rivalité entre la famille et l'État. Parce que la famille ne peut plus, elle n'est plus assez forte pour avoir son éducation. Elle le voudrait bien. Mais l'État a pris possession de tout ça. Et surtout, quand il s'agit des hautes études, les hautes études qui impliquent un investissement énorme. Prenez les hautes études, par exemple, pour la médecine. Un investissement pour les sciences. Un investissement énorme qui fait que la famille ne peut plus, c'est évident, c'est l'État. l'étape met des conditions telles qu'au fond, la première éducation demande d'être tout de suite d'État. Et ça, c'est un monstre, ça, c'est monstrueux. Mais il y a quelque chose de monstrueux quand la famille était obligée, pour maintenir une éducation chrétienne, de payer ses impôts à l'État pour l'éducation et de payer son éducation pour avoir une éducation chrétienne. Pendant notre siècle, c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, de fait, qu'on arrive à une impasse. Et tout le problème de l'éducation demanderait d'être entièrement repensé dans une perspective qui soit vraie, à la fois famille et coopération avec l'État. Et la liberté d'enseignement au niveau familial, au niveau religieux. Parce que ça, c'est un devoir. La liberté religieuse est un devoir, l'État doit le reconnaître. Et quand l'État ne le reconnaît pas, on peut se battre pour cela. Et moi, je crois que c'est le critère au point de vue sélection. C'est pas le point de vue économique. Le critère au point de vue des élections, est-ce que on accepte une liberté religieuse? Si on n'accepte pas une liberté religieuse, on n'a pas le droit de voter pour quelqu'un qui n'accepte pas la liberté religieuse. On n'accepte pas. Alors c'est la question de savoir, est-ce que c'est le moindre mal? Est-ce qu'en politique le moindre mal est légitime? Le Saint-Père dénonce le moindre mal au point de vue éthique personnel comme quelque chose qui est contraire à l'Évangile. C'est dénoncé. Et je suis très heureux que ce soit dénoncé dans l'encyclique. Parce que je sentais que je cherchais un lieu où le magistère avait dénoncé la chose. Oh, là, il le dénonce. Ouvertement. Pas au point de vue politique. Mais au point de vue éthique personnel. Il n'y a pas de moindre mal dans l'éthique personnelle. Vous voyez, parce que ça avait gagné l'éthique familiale, le moindre mal. J'avais lu, peu de temps avant, un rapport d'un aumônier à propos du sida, en plaidant le moindre mal. Et ceci avait été donné à tous les évêques, pour que les évêques mettent leur signature. Et le Saint-Père la dénonce. Je ne sais pas si elle avait lu ce rapport, mais elle avait lu d'autres. Parce que c'est aujourd'hui, ça s'est passé, le moindre mal est passé de la politique à l'éthique personnelle. Alors, c'est dénoncé nettement dans l'encyclique, parce que ça nous montre que on ne peut jamais faire qu'un mal devienne un bien. Donc si un mal devient... Si on parle du moindre mal, on fait d'un mal un bien. Et c'est l'homme qui le fait. Et donc c'est l'homme qui mesure du bien et du mal. Alors, jusqu'où en politique c'est aussi légitime? Où est-ce que ça obligerait, quand vous êtes devant des candidats qui tous sont contre le point de vue religieux, la liberté religieuse de l'enseignement? Est-ce que le devoir du chrétien, ce serait de s'abstenir? Ou au contraire, de voter pour le moins mauvais, comme on dit toujours? Oui, il y a un problème là, très délicat. Vu l'encyclique, où c'est dit avec netteté, tant que c'était pas dit avec netteté, on pouvait encore la magouille. Tandis que là, c'est dit avec netteté. Vous n'avez pas le droit de choisir un mal. Alors, au plan politique, la question est un petit peu différente. En sachant que si vous ne votez pas, vous laissez passer, quelquefois, le plus mauvais. Mais si vous votez, information qui est capitale pour eux. Comme dans la vie religieuse, la formation est quelque chose de capital. C'est pour ça que si on quitte la recherche de la vérité, tôt ou tard, tout est faussé. Par la question de la politique du moindre mal. Vous voyez, je trouve qu'on retrouve alors le côté, et c'est le Saint-Père le souligne, le côté très farouche de l'Évangile. Une branche qui ne porte plus de fruits, on la coupe. Et c'est dit dans l'enseignement du chapitre 15 sur l'Église. Politique qui a une politique qui ne respecte pas le point de vue de la liberté religieuse, ben, c'est forcé, il ne porte pas de bons fruits. Parce qu'il y a une vision politique qui est fausse, qui manque de respect à l'égard de l'homme, de la personne humaine. Peut-on voter pour quelqu'un qui manque de respect s'il n'y a pas de candidat? Au moins, on montre qu'on n'est pas d'accord. Reste libre. Si on vote, on est lié. Si on prend au sérieux ce que c'est que voter, on est lié. On a voté pour. Donc on accepte de le suivre. Mais ces problèmes qui sont très aigus aujourd'hui et que les personnes vous posent, hein, et vous n'avez pas le droit de répondre quelque chose qui n'est pas juste. Puisque vous êtes représentant de la vérité. Point de vue vérité politique comme point de vue vérité éthique personnelle. Donc il faut au moins comprendre le problème. Et que le problème se pose. Et vous pouvez toujours dire, c'est tellement complexe que je n'ose pas, je demanderai conseil. Et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait, dans tous nos prieurés, les questions extrêmement délicates et actuelles. Les poser comme des questions disputées qu'on se pose pour ne pas prendre voyez, l'attitude de ceux qui suivent, tout le monde le dit, donc on le fait. Non, c'est pas une position philosophique, c'est pas une position évangélique. Tout le monde le fait, donc on le fait. On doit, et plus on avance, plus on se rend face de lois qui ne respectent point de vue du droit naturel. Et donc plus on est en face d'une politique qui dégringole et qui montre qu'il y a une différence entre suivre la loi et suivre sa conscience morale. C'est ça le gros problème d'aujourd'hui, hein, faut bien le reconnaître. Et c'est ce problème que vous voyez qu'il faut bien souligner. L'insertion de l'aspect familial dans l'aspect politique. Il y a une politique familiale. Celle-là est immédiatement reliée à la politique personnelle, à l'éthique personnelle, directement. Tandis que quand il s'agit de la philosophie politique, quand il s'agit de l'éthique politique, ce n'est pas un prolongement de l'éthique personnelle qui peut donner le caractère propre de l'éthique politique. Il y a un caractère spécifique propre à l'éthique politique. Toute la différence entre la famille et l'État. Il n'y a pas un sacrement pour l'État, tandis qu'il y a un sacrement pour la famille. Parce que le salut est personnel et n'est pas politique. Notre finalité chrétienne est personnelle. Et notre finalité personnelle engage la famille. Et elle est liée à la famille. plus à la conduite des automobiles. Vous avez une responsabilité au point de vue moral dans la conduite. Mais l'Église ne nous dit pas, elle nous dit pas qu'il faut passer un examen pour pouvoir conduire les automobiles. L'examen, c'est l'État qui fait ça, qui juge bon de le faire. Dans certains États, il n'y en a pas. Mais l'Église rappelle l'usage. Elle rappelle l'usage de la science. Mais elle n'intervient pas sur la science. Mais elle montre la manière dont il faut s'en servir. Mais donc, il y a deux interventions tout à fait différentes de l'éthique personnelle sur la famille, sur l'aspect politique. Et je crois ça très important à saisir. Séminaire.